Bonjour.
Vous êtes sur Radio Graphite 94.9 FM. Et je vous accueille sur Glissando comme tous les mercredis matins. Et je suis heureuse de vous retrouver. D'ailleurs, au fait, si vous voulez liker, ça me permettrait de voir si vous aimez cette émission ou pas. Cette semaine, nous allons parler d'un compositeur que vous connaissez forcément. Wolfgang Amadeus Mozart, bien sûr. Ce fameux Mozart qui était né en 1756, donc au XVIIIe siècle, et qui malheureusement n'a pas vécu très longtemps. Ah, le pauvre. Alors, c'était bien sûr, je vous rappelle un petit peu, hein, comme ça, voilà, vous serez mieux dans le bain. C'était un compositeur autrichien. Il fut une figure majeure du classicisme, hein, ça, faut le dire. C'est un des compositeurs les plus importants de l'histoire de la musique occidentale et la figure majeure de la période du classicisme. Il était virtuose du clavecin et du violon. Il connaît un succès précoce, tout petit, et une carrière fulgurante, en portant toutes les formes musicales existantes à un état d'accomplissement inégalé. Il fait partie d'ailleurs, avec Joseph Haydn et Beethoven, de la triade classique viennoise, comme on disait, incarnant l'un des trois maîtres dont l'influence a été la plus considérable sur les générations suivantes de compositeurs. Le père de Mozart était musicien au service du prince archevêque de Salzbourg et il occupe une place prépondérante dans la réussite de son fils. Pourquoi ? Parce qu'il lui enseigne la musique très jeune. Il organise son premier concert en public, alors que Mozart a seulement 6 ans. L'enfant prodige se produit par la suite dans de nombreuses villes d'Europe, à Vienne, devant l'impératrice Marie-Thérèse, à Versailles, devant la famille royale et la cour, à Londres, devant le roi George III. Mozart se retrouve très vite sollicité par la noblesse, qui ne tarit plus d'éloges à son sujet. Il compose ses premières grandes œuvres, opéra bouffe, messe, quatuor, concerto, symphonie, en tout plus de 600 pièces en 35 ans. Bah oui, parce qu'il est déjà mort à 35 ans, le pauvre. Son succès lui permet de dépasser peu à peu les normes formelles de son temps et de s'affranchir des contraintes sociales pesant sur le statut du compositeur. Bah oui, ils n'étaient pas très payés, en fait. Ils avaient beaucoup de travail pour pas grand-chose. Malgré de nombreuses dettes, il a trouvé une certaine indépendance à Vienne, où il s'est établi à partir de 1781. 9 ans plus tard, il meurt prématurément, en raison de fréquentes maladies, et dû aussi à l'épuisement de son rythme de travail effréné. Son œuvre contient l'ampleur et l'effusion passionnée qui caractériseront la période romantique. Écoutez Mozart, déjà, nous allons rejoindre la Camerata de Lausanne, dirigée par le violoniste Pierre Amoyal, qui joue aussi dans l'orchestre, pour un concertone pour deux violons au bois et violoncelle. Alors un concertone, c'est un peu un concerto, en fait, où il y aura deux violons au bois et violoncelle qui auront un peu une voix qu'on entendra un peu plus que celle de l'orchestre. Et je vais donc vous faire entendre l'Allegro Spiritoso. C'est un Allegro, vous allez voir, très joyeux et plein d'humour.
Thank you.
Ce concerto, comment ça s'appelle, pour deux violons et hautbois et violoncelle, donc de Wolfgang Amadeus Mozart, était une œuvre pétillante, sensible, je dirais même câline par moments. Voilà, et vraiment cet allegro spirituoso qui était très joyeux, plein d'humour. Alors Mozart, on pourrait voir par exemple 6 dates importantes. À l'âge de 11 ans, il a écrit son premier opéra, Apollo et Hyacinthus. À 13 ans, il est nommé maître de concert auprès de l'archevêque de Salzbourg. À 14 ans, il a retranscrit en une seule écoute le Miserere de Gregorio Allegri, que je vous ai fait écouter il y a quelques semaines, voilà, qui était une œuvre de très grande complexité, qu'on n'avait pas le droit de recopier. Voilà. Et lui, il l'a écouté et il l'a recopié vite chez lui. Voilà. Il s'est rappelé de tout ce qui se passait, Dieu sait s'il y avait des notes. Et il a pu le retranscrire. À 23 ans, il était organiste de la cour, avec la contrainte du principe de la commande, c'est-à-dire que quand on est comme ça employé chez ces personnes très importantes, ils vont vous dire je voudrais de la musique pour ceci, je voudrais cela, etc. Et donc lui, il faut qu'il compose. Et comme par exemple, on lui a demandé de composer la messe du couronnement, qui fut composée dans une période difficile parce que sa mère était morte l'année précédente et ça l'avait beaucoup, beaucoup peiné, forcément. À 25 ans, il a rencontré Haydn, Joseph Haydn. Et là, ce fut la naissance d'une grande amitié. Et à 29 ans, il est devenu maître de la franc-maçonnerie. Alors, vous savez, la franc-maçonnerie, c'est un ordre initiatique et universel, fondé sur la fraternité, la recherche de la vérité. Et il est très marqué par son entrée récente dans la franc-maçonnerie. Une force nouvelle le fait triompher du désespoir et efface un temps son angoisse viscérale. Voilà, c'est ce qu'il dit. Alors, nous allons écouter quelque chose de différent. Là, c'était une œuvre donc pour orchestre, et avec des violons, des altos, des violoncelles, du hautbois. Là, on va aller vers un quatuor à cordes. Vous vous rappelez, c'est donc deux violons, un alto et un violoncelle. C'est le 17e quatuor qui s'appelle La Chasse. Et je vous propose dans ce quatuor le final, un allegro assai. Thank you. C'était le formidable et très connu quatuor Talisch qui vous interprétait le final de ce 17e quatuor, dit quatuor La Chasse, donc de Wolfgang Amadeus Mozart. Vous voyez, cette musique d'une qui paraît simple, mais qui est sereine, avec ses seuls quatre instruments qui jouent là, c'est vraiment très reposant, je trouve. Mozart, on pourrait compter 6 œuvres majeures. Alors, ses concertos pour violon, déjà, il en a fait plusieurs. Son concerto pour flûte et harpe, très connu. La messe du couronnement, à 23 ans. Don Giovanni, un opéra en 2 actes, en italien, pareil, à 31 ans. Ses symphonies, voilà, il en a fait beaucoup. La flûte enchantée, bien entendu, cet opéra en 2 actes, mi-parlé, mi-chanté, qu'on dit Singspiel, voilà, en allemand, sur un livret de Schikaneder, voilà, tellement célèbre qu'on a tous cette musique un petit peu dans la tête. Alors, il a écrit aussi pour d'autres instruments, pour la clarinette, bien sûr, et il a fait un concerto pour clarinette et orchestre qui est très, très, très beau, et je vous en propose l'Adagio.
Thank you.
C'était le Mozart Festival Orchestra qui vous proposait ce concerto pour clarinette et orchestre de Mozart. Et à la clarinette, c'était un certain José Ostrán. Voilà ce merveilleux adagio qui nous fait rêver. Alors, à l'époque de Mozart, de Wolfgang Amadeus, il y avait un autre musicien qui était très connu aussi. C'était Antonio Salieri. Alors, pour vous donner une idée, Wolfgang, il est né en 1756. Antonio Salieri, il est né en 1750. Donc, vous voyez, il est plus vieux que lui. Et puis, il vivra plus vieux aussi, puisqu'il mourra en 1825, alors que Mozart, en 1791. Vous voyez, donc, il a eu une vie plus longue, mais pas toujours facile, le pauvre. Ce fut un compositeur talentueux, respecté de son vivant. La postérité l'a plutôt transformé en auteur médiocre, en un jaloux, capable de tuer son plus grand rival, Wolfgang Amadeus Mozart. C'est une légende bien ancrée dans l'imaginaire collectif et qui a été renforcée à de nombreuses reprises dans la littérature et la culture populaire, et je dirais même le cinéma, si vous aviez vu le film Amadeus. Souvent relégué au second rang dans l'histoire des grands compositeurs, la carrière d'Antonio Salieri indique pourtant un parcours beaucoup plus brillant. Il est né donc en 1750, comme je le disais, à Legnago, en Italie, et rapidement initié à la musique. Du coup, il attire l'attention d'un certain Florian Gassmann, qui était compositeur à la cour de Vienne et qui faisait un voyage en Italie, justement, à cette époque. Gassmann emmène le jeune Salieri, qui est devenu orphelin, il l'emmène à Vienne et finance son éducation musicale. Sous l'auspice de Gassmann, Salieri reçoit l'approbation de Joseph II, empereur cultivé et déterminé à attirer les meilleurs artistes et compositeurs, ainsi que le soutien du grand compositeur Christoph Willibald Gluck. Du coup, à peine âgé de 17 ans, ses soutiens lui assurent une brillante carrière. En 1774, à la mort de Gassmann, il remplace ce dernier en tant que directeur de l'opéra italien. Dans une ville où l'opéra allemand et le Singspiel dominent, Salieri est un grand défenseur de l'opéra comique italien. Il parvient même à trouver un poste à la cour de Vienne pour le poète et librettiste italien Lorenzo da Ponte, futur grand collaborateur de Mozart. En 1788, Salieri est nommé Hofkapellmeister, maître de chapelle de l'empereur, un prestigieux poste qu'il occupera jusqu'à sa mort. Ses opéras sont interprétés à Paris, à Rome, à Venise. Sa musique est jouée partout dans l'Europe. Il profite de son vivant vraiment d'un succès incontestable. Ses œuvres font l'objet de nombreuses reprises par d'autres compositeurs, tels que Mozart et Beethoven, qui composent d'ailleurs chacun des variations sur un thème de Salieri. Ce dernier assume également, lors de sa longue carrière, le rôle de pédagogue auprès de la nouvelle génération des grands compositeurs romantiques tels que Beethoven, Liszt, Schubert, Meyerbeer, Czerny, Hummel. Nous allons donc écouter une première œuvre de Salieri. En fait, c'est un extrait donc d'un concerto en do majeur pour piano et orchestre. C'est le grand pianiste Aldo Ciccolini qui est soliste, pianiste, et qui est accompagné par I Solisti Veneti, donc un groupe de musique de chambre dirigé par Claudio Cimone. croyait que Salieri savait écrire, lui aussi, pour le piano, pour l'orchestre. Bon, c'est pas pour rien qu'il était nommé Hofkapellmeister, maître de chapelle de l'empereur. Et ce merveilleux allegro très brillant de Salieri, donc pour ce concerto pour piano et orchestre, joué par Isolisti Veneti, était vraiment, voilà, une belle pièce. Alors, on va reparler de Salieri et Mozart, parce que, en fait, y avait-il une rivalité ? Eh bien, Salieri était respecté et largement soutenu. Donc, avait-il vraiment envie de se sentir menacé lorsque le jeune Mozart, enfant prodigue autrichien, arriva à Vienne en 1781 ? Bien au contraire. Ce serait Mozart qui aurait exprimé une grande jalousie envers le grand Salieri lors de son arrivée à Vienne. Dans les lettres écrites à son père, Mozart se plaint notamment de l'influence italienne dans les cercles intimes de l'empereur. Salieri était tellement apprécié de l'empereur que Mozart écrit en décembre « Le seul qui compte à ses yeux est Salieri ». Mozart et Salieri sont tous les deux intéressés par l'opéra italien. Ils puisent dans les œuvres dramatiques de Beaumarchais, collaborent avec le librettiste Lorenzo da Ponte. Sans surprise, cette proximité professionnelle engendre bien sûr plusieurs hostilités. Initialement écrit pour Salieri, le livret de Lorenzo da Ponte pour Così fan tutte, donc l'opéra qui sera écrit et joué par la suite, est vite abandonné par le compositeur, jugé indigne d'invention musicale. Le projet est ainsi confié à Mozart, qui saura le sublimer. Convaincu que Salieri tente de saboter les opéras de son fils, Léopold Mozart se méfie également de ce Hofkapellmeister italien. Pourtant, la production des opéras de Mozart au théâtre de la cour de Vienne, comme par exemple l'Enlèvement au sérail ou les Noces de Figaro, eh bien en fait, ces représentations auraient été inimaginables sans l'accord du compositeur de la cour, qui est Antonio Salieri. L'engouement pour les opéras italiens à Vienne était aussi pleinement dans les intérêts de Salieri, directeur menacé à Vienne par la promotion des Singspiel et de l'opéra allemand, une priorité pour l'empereur pour des raisons politiques. D'ailleurs, les deux rivaux composent ensemble, en 1785, une cantate qui s'appelle « Per la recuperata salute de Ophelia », qui est une cantate pour voix et piano. Et dans sa dernière lettre, Mozart lui-même écrit qu'il avait invité Salieri et la chanteuse Madame Cavalieri à une représentation de son opéra « La flûte enchantée », lors de laquelle le compositeur italien n'avait cessé de crier « bravo » et d'applaudir furieusement. Au début du XIXe, Salieri cesse de composer. Il est, on va dire, dépassé, démodé. Il constate un changement progressif dans le goût musical, contraire à sa musique. Mais alors que la musique de Salieri ne semble plus convenir à son époque, la popularité de la musique de Mozart ne fait que croître, même, d'ailleurs, après la mort de celui-ci. Alors, revenons à Wolfgang Amadeus Mozart, et puis à une œuvre tellement belle pour chœur, orchestre. C'est les chœurs et orchestres symphoniques de France qui sont dirigés par Laurent Petit-Girard. Et je vous offre un extrait du Requiem de Mozart. C'était donc le Confutatis et Lacrimosa du Requiem de Mozart. Et on a dit beaucoup de choses, vous savez, si vous avez vu d'ailleurs le film Amadeus, on voit Mozart qui essaye de se dépêcher d'écrire ce Requiem qui n'arrive pas. Ah là 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 là. Alors en fait, à l'aigreur que ressent Salieri envers Mozart s'ajoutent les rumeurs de l'empoisonnement de ce dernier. Une semaine après la mort de Mozart, la possibilité d'une mort par poison est évoquée. On évoque même, on observe que le corps de Mozart était étrangement gonflé au moment de son décès. Alors, l'auteur de ces rumeurs ne serait autre que Mozart lui-même. Pourquoi ? Parce que régulièrement et gravement malade dès son plus jeune âge, Amadeus était souvent convaincu d'être la victime de complots et l'a confié à sa sœur quelques mois avant sa mort qu'il avait craint d'être empoisonné. Mais qui aurait pu tuer un tel génie ? Qui aurait souhaité la mort d'un compositeur aussi talentueux que Mozart ? Sans surprise, Salieri est vite pointé du doigt. Pourtant, il n'est pas le seul à se voir accusé d'avoir tué le génie autrichien. Les francs-maçons sont également soupçonnés, car Mozart aurait dévoilé plusieurs secrets de l'organisation secrète. Wolfgang Amadeus Mozart a eu quand même aussi un père formidable, qui s'appelait Léopold. Léopold Mozart, originaire d'Augsbourg, a débuté sa carrière avec un gros bagage musical, d'excellentes aptitudes au violon et de solides bases théoriques. Il est entré au service du prince-archevêque de Salzbourg, qui lui a accordé le titre de compositeur de la cour et de la chambre en 1757, un an après la naissance de Wolfgang. Quand il a découvert les dons musicaux hors du commun de son fils, il a sacrifié sa carrière au profit de son fils. Il a été d'ailleurs l'auteur d'une méthode de violon qui a fait longtemps référence, et il a été aussi un bon compositeur. Et justement, je souhaiterais vous faire écouter, pour terminer notre émission, la Symphonie des Jouets. Si vous ne la connaissez pas, vous allez voir, c'est surprenant. Ça ne manque pas d'originalité ni d'audace, car à l'époque, Léopold a osé faire intervenir dans l'orchestre des choses bizarres comme la crécelle, les appos, le tambour. Vous allez voir, c'est surprenant. Et c'est l'orchestre de chambre Jean-François Paillard qui va vous faire entendre cette magnifique œuvre, la Symphonie des Jouets de Léopold Mozart. Thank you. Eh bien, c'est avec cette symphonie déjouée de Léopold Mozart que je vous dis au revoir à la semaine prochaine sur Radio Graphite 94.9 pour Glissando. À bientôt !